D'habitude, quand on parle de la fin d'un système économique ou de la perte massive des emplois à cause des machines, on a tout de suite cette image très cinématographique en tête.
Ah oui, le fameux effondrement hollywoodien, quoi.
Exactement. Le marché boursier qui dévisse en une seconde, des usines qui ferment du jour au lendemain, et bien sûr, des robots avec des yeux rouges qui prennent le pouvoir. C'est l'apocalypse instantanée.
C'est vrai que la culture populaire adore ce côté très binaire, en fait, l'idée que soit la machine tourne parfaitement, soit c'est le chaos absolu et la fin du monde tel qu'on le connaît.
Et c'est justement ce paradoxe qui rend notre plongée en profondeur d'aujourd'hui si captivante. Parce que quand on lit les récents travaux du prospectiviste Thierry Curti, on tombe sur une thèse qui prend le contre-pied total de cette angoisse.
Une vision vraiment monumentale, oui.
Voilà. Une thèse qui affirme que la disparition imminente de l'emploi salarié n'est absolument pas une apocalypse. Au contraire, ce serait potentiellement le plus grand bond en avant pour l'humanité depuis la découverte du feu.
Rien que ça. Et pour analyser tout ça, nous avons assemblé un volume impressionnant de ces sources. On a des essais récents, des graphiques économiques hyper détaillés, des frises chronologiques sur l'histoire humaine et même la transcription d'une de ces conférences.
Et la mission de notre exploration détaillée aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi et comment la société va devoir passer du consumérisme frénétique du XXe siècle à ce qu'il appelle le contributisme du XXIe siècle.
Tout à fait. Et juste pour être très clair dès le départ, le but n'est pas de prendre parti.
Ah ça, c'est crucial. On ne va pas se transformer en militant, qu'on trouve ça très à gauche, très à droite, bien ou mal. On reste impartiaux. On se contente de décortiquer la mécanique de sa théorie.
Exactement. On veut juste comprendre comment l'auteur relie l'histoire humaine à l'intelligence artificielle.
Du coup, avant de céder à la panique face à l'idée qu'un algorithme va voler le travail de tout le monde, les sources nous invitent à faire un pas de géant en arrière. En fait, ce genre de bouleversement vertigineux, l'humanité l'aurait déjà en dit de cul.
C'est ça. L'auteur propose une lecture de l'histoire qui est extrêmement structurée. Il découpe l'histoire humaine en 5 grandes économies.
5 étapes, en gros.
Voilà. La première, c'est celle des chasseurs-cueilleurs. C'est notre socle, une période de survie pure qui a duré des millions d'années.
C'était long, oui.
Très long. Ensuite, avec le néolithique, il y a environ 10 000 ans, on entre dans la deuxième économie, l'économie agraire. C'est là qu'apparaissent l'agriculture, les villes, les premières civilisations.
Et après, ça s'accélère.
Complètement. La troisième, beaucoup plus récente, c'est l'économie industrielle, donc la machine à vapeur, le charbon, le pétrole.
Et aujourd'hui, on trébuche en plein dans la quatrième. C'est l'économie de la maîtrise des ressources.
C'est exactement ça. Et tout ce cycle historique est censé nous amener vers une cinquième étape au XXIe siècle, qui est l'automatisation totale.
D'accord.
Ce qui est fascinant ici, c'est le parallèle que dresse l'auteur entre un événement préhistorique majeur, la maîtrise du feu, et l'automatisation actuelle.
Ah oui, l'histoire de la digestion.
Oui, la découverte du feu, ce n'était pas juste pour se réchauffer. Ça a permis de cuire la viande. Et la protéine cuite demande infiniment moins d'énergie à digérer. Ce qui fait que cette énergie sauvée a pu être redirigée vers le développement du cerveau humain.
Oh, waouh! L'étincelle de l'intelligence intellectuelle, littéralement.
Exactement. Eh bien, selon Curti, l'automatisation, c'est un peu le feu de notre époque.
Comment ça, je gorfe?
En nous libérant de la digestion physique laborieuse qu'est le travail répétitif, l'automatisation va libérer l'énergie nécessaire pour créer une intelligence supérieure, cette fois-ci une intelligence sociale, collective et distribuée.
Bon, décortiquant tout ça, l'analogie qui me vient naturellement, c'est de voir l'histoire humaine comme une série de mises à jour majeures du système d'exploitation d'un ordinateur.
Une mise à jour de notre OS, en fait.
C'est ça. Passer de Néandertal à Homo sapiens, c'était un changement de matériel, la version 1.0. Ensuite, la sédentarisation, l'économie agraire, c'était l'OS 2.0.
Et ça a changé les applications qu'on pouvait faire tourner.
Exactement. Le fait de ne plus fuir l'hiver en permanence, d'avoir des récoltes stockées, ça a créé un truc inouï du temps libre. Et c'est ce temps qui a permis d'inventer des concepts comme la justice, la politique, l'art.
C'est très juste. C'est vraiment le temps libéré de l'urgence matérielle qui crée la civilisation. L'automatisation totale promet la prochaine grande mise à jour en éliminant définitivement la rareté.
Donc ce n'est pas la fin du monde ?
Non, les textes précisent bien qu'il ne faut pas parler de fin du monde, mais de la fin d'un monde. On serait tout simplement en train d'achever la préhistoire de la civilisation.
D'accord, l'analogie est belle sur le papier, mais mettons-nous un instant à la place de la personne qui craint de perdre son gagne-pain demain matin. Lui dire « ne t'inquiète pas, c'est juste la fin de la préhistoire », ça semble quand même profondément déconnecté de l'urgence actuelle.
Ça s'entend tout à fait.
Si l'humanité a toujours évolué pour se libérer, pourquoi le système d'aujourd'hui semble s'effondrer sous le poids d'une dette colossale et d'une crise écologique ténace ? Les documents ont une réponse à ça et elle pique un peu.
Ah ça oui. Ils affirment que la cause de cet effondrement, c'est une invention artificielle très récente, à savoir l'emploi.
L'emploi.
Oui, c'est un rappel historique qui secoue pas mal nos certitudes. Les sources insistent sur le fait que l'emploi salarié de masse n'est pas une loi de la nature. C'est une invention institutionnalisée dans les années 1930.
Principalement pour gérer les conséquences de la crise de 29, non ?
Exactement. C'est un concept qui a à peine 90 ans. L'auteur souligne que 99,9% de l'histoire s'est faite sans ce dogme. Prenez les pionniers qui ont bâti la Californie ou développé l'Australie.
Ils n'avaient pas d'emploi, c'est vrai.
Ben non, ils n'avaient pas de CDI ou de fiche de paie. Ils produisaient, ils collaboraient, ils bâtissaient, mais complètement en dehors de notre conception moderne du salariat.
Il y a d'ailleurs un graphique dans nos sources qui illustre ça de manière assez brutale. Il croise la courbe de la productivité et celle de l'employabilité.
Le fameux point de rupture des années 70.
Voilà. On y voit ces deux lignes se croiser à la fin des Trente Glorieuses. À partir de là, la productivité des machines explose vers le haut et le besoin de main-d'œuvre chute irrémédiablement.
C'est mathématique, oui.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire ? Point. Si on produit plus et mieux avec moins d'humains, logiquement, on devrait sabler le champagne. Pourquoi les gouvernements s'acharnent-ils à dépenser des fortunes pour, je cite, « sauver l'emploi » ?
Eh bien, l'analyse de l'auteur, c'est que la société s'est enfermée dans un piège. Comme l'emploi est devenu l'unique mécanisme reconnu pour distribuer l'argent, il faut impérativement maintenir les gens au travail.
Même si ce travail ne sert à rien.
C'est ça le pire. Pour justifier ce travail face à des machines hyper-performantes, la société est condamnée à la surproduction. Les textes n'y vont pas par quatre chemins. Ils parlent d'une obligation de produire de la merde, en fait.
C'est le terme exact utilisé dans les essais, oui.
On fabrique des objets fragiles, médiocres, conçus pour se casser. Des autoradios à 30 euros, des imprimantes à 52 euros, dont les cartouches d'encre coûtent plus cher que la machine elle-même.
L'obsolescence programmée.
Exactement. On rogne sur les matériaux pour garantir qu'il faudra racheter le produit. Tout ce cycle de destruction écologique n'a qu'un but inavoué, maintenir artificiellement des gens sur des chaînes de montage.
Et ça se voit parfaitement au niveau administratif. Les données de Curti pointent qu'en France, le code du travail est passé de 80 articles à l'origine à plus de 10 000 aujourd'hui.
10 000 articles ! C'est fou !
Comment on passe de 80 à 10 000 ? Bah, parce qu'il faut encadrer, subventionner et inventer des règles pour des métiers qui, économiquement parlant, ne devraient plus exister. C'est une usine à gaz bureaucratique qui coûte 150 milliards d'euros.
Juste pour perfuser un modèle mourant. Et le symptôme ultime de ça, c'est la dette. Le graphique fourni montre une courbe nationale qui double tous les 10 à 15 ans.
C'est terrifiant quand on y pense.
On franchissait allègrement la barre des 3 000 milliards d'euros en 2023 et on projette plus de 5 000 milliards pour 2035.
D'ailleurs, les sources mentionnent un terme technique pour ça, le multiplicateur keynésien appliqué à outrance.
C'est ça.
Concrètement, pour simplifier, c'est l'idée que l'État injecte de l'argent public pour stimuler l'économie, en espérant que ça va créer de la richesse humaine.
Sauf que, dans un monde où la productivité appartient aux machines, injecter de l'argent pour créer de l'emploi humain ne crée plus de valeur réelle. Ça finance des emplois aidés, ça paye des ronds-points parfois injustifiés.
C'est une fuite en avant financière, en fait.
Totalement. Une fuite en avant destinée à repousser l'échéance.
Mais cette fuite en avant se heurte inévitablement à un mur technologique. On ne peut pas arrêter le temps. Au moment même où on essaie de sauver ses emplois administratifs, les machines continuent d'évoluer.
Et de manière fulgurante. L'auteur décrit cette évolution à travers 5 générations d'intelligence artificielle et de robotique.
On commence dans les années 50, c'est ça, hein ?
Oui, la première génération, c'était la répétition aveugle. Une machine exécute un mouvement, un point c'est tout. L'exemple donné est frappant. Un robot de cette époque qui bascule sur le côté va continuer à brasser l'air ou frapper le sol, incapable de comprendre qu'il est tombé.
C'était vraiment basique.
Puis la deuxième génération, dans les années 80, introduit les capteurs réactifs. Si une pièce manque sur le tapis roulant, la machine s'arrête.
Ensuite, il y a la troisième et la quatrième génération, grosso modo ce qu'on a connu très récemment, avec l'ajout de la mémoire et de la connectivité.
Les machines se parlent entre elles, oui. Et le résultat sur le terrain est féroce. Là où il y a un siècle, il fallait des milliers d'humains pour assembler des voitures, aujourd'hui, 5 techniciens supervisant des machines remplacent 10 000 ouvriers.
Mais la véritable rupture, la singularité technologique vers laquelle on court, c'est la 5e génération, l'intelligence artificielle cognitive et créative.
C'est là que tout bascule.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Pour bien comprendre, l'analogie, c'est qu'avant, on donnait une partition très précise à une machine. Mais demain, avec la 5e génération, on lui dira simplement qu'on soit une symphonie qui exprime la mélancolie.
L'auteur illustre ça magnifiquement avec l'industrie automobile. On ne va plus coder un bras robotique pour souder une portière.
On va demander au système de créer une voiture urbaine écologique et peu coûteuse.
Et l'IA va concevoir le design, commander les matériaux, piloter l'assemblage complet. Elle sera même capable de générer le discours marketing avec le talent d'un Steve Jobs qui dévoile l'iPhone 1.
C'est bluffant.
Et cela soulève une question importante, un paradoxe formidable que relève l'analyse. Contrairement à l'idée reçue, ce ne sont pas les tâches manuelles de base qui seront les dernières remplacées.
C'est carrément l'inverse. Les emplois purement intellectuels sont beaucoup plus menacés.
Exactement. C'est complètement contre-intuitif. On a tous entendu à l'école « fais des études longues pour ne pas être remplacé par une machine ».
Mais imaginez rédiger une thèse d'astrophysique de 10 000 pages, compiler toutes les données de l'univers et traduire ça en 50 langues avec les bonnes nuances culturelles.
Pour une IA de 5e génération, c'est une opération quasi gratuite. C'est de la pure gestion de données. Par contre, prenez une action physique dans un environnement imprévisible.
Comme quoi, ouais.
Demander à un robot d'aller au fond d'un jardin, de creuser la terre avec une pelle entre deux racines pour changer un vieux compteur d'eau. Ou simplement de prendre une carafe d'eau posée de travers et de remplir un verre en plastique léger sans l'écraser?
Ah oui, ça c'est un cauchemar d'ingénierie.
Absolument. La motricité fine, l'adaptation spatiale instantanée, ça requiert une puissance de calcul hors de prix et des capteurs hyper complexes.
Donc le travail intellectuel devient gratuit, alors que l'action manuelle complexe devient un luxe.
C'est un bouleversement total des valeurs.
Si on résume, l'impasse, la productivité rend le travail humain mathématiquement inutile, maintenir des emplois artificiels détruit la planète et fait exploser la dette. Et en plus, l'IA absorbe le travail cognitif.
Le tableau semble sombre, dit comme ça.
Du coup, comment fait-on pour éviter le crash social absolu? Comment empêcher que 80% de la population ne se retrouve dans la misère? C'est là que l'auteur introduit son modèle pour le 21e siècle, le contributisme.
La réponse apportée dans les documents, c'est une restructuration radicale de la distribution des richesses. On a un graphique spécifique là-dessus, appelé « structure contributive du revenu ».
Le salaire classique va se réduire, c'est ça?
Oui, la part du salaire liée à l'emploi fixe s'effondre. Et elle est remplacée par une base inconditionnelle, un revenu universel de survie, un revenu de base pour le confort et surtout un revenu contributif.
Et ce revenu contributif, c'est l'essence même du capitalisme cognitif. Concrètement, puisque la machine fabrique les objets physiques, la valeur se déplace vers l'humain.
C'est la simple participation à la société qui génère de la richesse. Les idées, les interactions sociales, la créativité, l'empathie, ce sera la nouvelle monnaie.
Et ça s'accompagne d'un changement total du rapport à la consommation matérielle, non?
La consommation devient collective.
L'exemple des voitures partagées dans les sources est redoutablement efficace.
Aujourd'hui, la réussite, c'est une famille avec 3 voitures de qualité moyenne qui dorment dans un garage 95% du temps.
C'est un immense gâchis de ressources.
Dans une économie contributive, l'idée n'est plus de posséder individuellement. À l'échelle d'un quartier, on aura accès à 3 véhicules partagés d'une qualité exceptionnelle, construits pour durer un siècle et réparables à l'infini.
C'est la fin de l'obsolescence programmée.
Tout à fait. Ça nécessite une fraction minuscule des ressources, ça supprime la pollution liée à la surproduction, tout en offrant une expérience bien supérieure.
Et il y a un paramètre fondamental qui s'ajoute à ça, c'est le temps humain. Avec les avancées médicales croisées à l'IA, l'espérance de vie pourrait atteindre 140 ans.
140 ans, oui.
Quand on intègre cette donnée, forcer quelqu'un à travailler péniblement pendant un siècle pour espérer se reposer quelques années à la fin, ça n'a plus aucun sens mathématique ou moral.
C'est vrai que le modèle actuel devient grotesque face à ça.
Mais là, je dois faire une objection, un petit pushback. Quand on écoute cette description de la sobriété, de la mutualisation des voitures, pour quelqu'un qui a grandi dans l'abondance, ça ressemble furieusement à une punition.
Une perte de liberté, en fait.
Oui, voire un retour en arrière. Comment l'auteur justifie que cette transition va se faire sans déclencher des émeutes permanentes?
Eh bien, si on relie ça à la situation dans son ensemble, l'auteur ne vend pas une utopie magique instantanée. son graphique chronologique indique très clairement qu'on vient d'entrer dans une zone de perturbation cyclique.
Une période de crise.
Voilà. Et cette zone de creux tendu va durer grosso modo jusqu'en 2030. Les technologies du XXe siècle expirent, les ressources fossiles s'épuisent, et la tension sociale est énorme parce que le vieux monde financier s'accroche.
C'est le frottement violent entre les plaques tectoniques. Le vieux monde qui refuse de mourir et le nouveau qui peine à naître.
Exactement. Cette zone de turbulence exige temporairement de la résilience et de la sobriété. Mais l'analyse montre que ce n'est pas une régression définitive. C'est un passage obligé pour préparer la cinquième révolution industrielle prévue vers 2050.
On quitte l'ère de la puissance brute et de l'accumulation frénétique d'objets pour entrer dans l'ère de l'intelligence.
La réussite ne se mesurera plus au nombre de babioles fragiles entassées dans un salon. L'individu s'épanouira en déployant son capital cognitif, l'éducation continue, l'exploration scientifique, l'implication dans la démocratie.
Loin, très loin de la souffrance de l'usine ou de l'open space bureaucratique. En somme, pour faire la synthèse de cette exploration vertigineuse, l'histoire de l'humanité n'est qu'une longue série de murs qu'on croyait inenfranchissables.
Le travail salarié n'aura été qu'une parenthèse historique.
Une parenthèse indispensable pour passer de la rareté à l'abondance, certes, mais une parenthèse tout de même. Les documents nous exhortent à cesser de lutter contre le vent.
S'acharner à perfuser l'emploi en détruisant notre environnement, c'est une erreur de diagnostic, oui.
Il faut au contraire embrasser l'automatisation comme l'outil ultime de notre libération. Ce parcours intellectuel nous amène à une réflexion finale, une pensée qui va un peu plus loin que les documents, pour ceux qui aiment creuser le sujet.
Je vous écoute.
Si l'intelligence artificielle et la robotique finissent par gérer toute la production matérielle, et même l'innovation créative, et que la seule véritable tâche de l'humanité devient son propre développement personnel, qu'adviendra-t-il de l'ambition humaine?
C'est une question vertigineuse.
Pendant des millions d'années, notre ingéniosité a été propulsée par la peur de manquer, par la lutte acharnée pour la survie. Si cette contrainte s'évapore, effacée par une technologie qui pourvoit à tout, quel sera notre nouveau grand moteur existentiel pour les millénaires à venir?
Risque-t-on une apathie dorée ou trouvera-t-on de nouveaux sommets à conquérir?
C'est exactement ça. C'est une excellente matière à réflexion pour quiconque a eu la curiosité de nous suivre aujourd'hui. L'avenir est beaucoup plus vaste que nos dogmes actuels. À très bientôt pour une nouvelle plongée en profondeur.